Voltaire, préface de Rome sauvée ou Catilina. Deux motifs ont fait choisir ce sujet de tragédie qui paraît impraticable et peu fait pour les mœurs, pour les usages, la manière de penser et le théâtre de Paris. On a voulu essayer, encore une fois, par une tragédie sans déclaration d'amour, de détruire les reproches que toute l'Europe savante fait à la France, de ne souffrir guère au théâtre que les intrigues galantes. Et on a eu surtout pour objet de faire connaître Cicéron aux jeunes personnes qui fréquentent les spectacles. Les grandeurs passées des Romains tiennent encore toute la terre attentive, et l'Italie moderne met une partie de sa gloire à découvrir quelques ruines de l'ancienne. On montre avec respect la maison que Cicéron occupa. Son nom est dans toutes les bouches, ses écrits dans toutes les mains. Ceux qui ignorent dans leur patrie quel chef était à la tête de ces tribunaux, il y a 50 ans, savent en quel temps Cicéron était à la tête de Rome. Plus le dernier siècle de la République romaine a été bien connu de nous, plus ce grand homme a été admiré. Nos nations modernes, trop tard civilisées, ont eu longtemps de lui des idées vagues ou fausses. Ses ouvrages servaient à notre éducation, mais on ne savait pas jusqu'à quel point sa personne était respectable. L'auteur était superficiellement connu. Le consul était presque ignoré. Les lumières que nous avons acquises nous ont appris à ne lui comparer aucun des hommes qui se sont mêlés du gouvernement et qui ont prétendu à l'éloquence. Il semble que Cicéron ait été tout ce qu'il aurait voulu être. Il gagna une bataille dans les gorges d'Issus où Alexandre avait vaincu les Perses. Il est bien vrai, semblable que s'il s'était donné tout entier à la guerre, à cette profession qui demande un sens droit et une extrême vigilance, il eût été au rang des plus illustres capitaines de son siècle. Mais comme César n'eût été que le second des orateurs, Cicéron n'eût été que le second des généraux. Non, il préféra toute autre gloire, celle d'être le père de la maîtresse du monde. Et quel prodigieux mérite ne fallait-il pas à un simple chevalier d'Arpinum pour percer la foule de tant de grands hommes, pour parvenir sans intrigue à la première place de l'univers, malgré l'envie de tant de patriciens qui régnaient à Rome? Ce qui étonne surtout, c'est que dans les tumultes et les orages de sa vie, cet homme, toujours chargé des affaires de l'État et de celles des particuliers, trouva encore du temps pour être instruit à fond de toutes les sectes des Grecs et qu'il fut le plus grand philosophe des Romains, aussi bien que le plus éloquent. Y a-t-il dans l'Europe beaucoup de ministres, de magistrats, d'avocats, même un peu employés, qui puissent, je ne dis pas expliquer, les admirables découvertes de Newton et les idées de Leibniz, comme Cicéron en décompte des principes de Zénon, de Platon et d'Épicure, mais qui puisse répondre à une question profonde de philosophie? Ce que peu de personnes savent, c'est que Cicéron était encore un des premiers poètes d'un siècle où la belle poésie commençait à naître. Il balançait la réputation de Lucrèce. Y a-t-il rien de plus beau que ces vers qui nous sont restés de son poème sur Marius et qui font tant regretter la perte de cet ouvrage? Si quiovis altisoni subito pinnata satelles, arboris et trunco serpentis aucia morsu, ipsa feris subigi transfigens un guibus sanguem, semiaminum et varia graviter cervice micantem, quem sentor quantem, vraiment, rostroque quantans. Iam satiata animum, iam duros ulta dolores. Abiecit effrontem et lacera tum affligit inundas, seque obitua solis nitidos convertit ad ortus. Je suis de plus en plus persuadé que notre langue est impuissante à rendre l'harmonieuse énergie des vers latins comme des vers grecs. Mais j'oserais donner une légère esquisse du petit tableau peint par le grand homme que j'ai osé faire parler dans Rome sauvée, et dont j'ai imité en quelques endroits les catilinaires. Tel on voit cet oiseau qui porte le tonnerre, blessé par un serpent et lancé de la terre. Il s'envole, il entraîne au séjour azuré l'ennemi tortueux dont il est entouré. Le sang tombe des airs, il déchire, il dévore le reptile acharné qui le combat encore. Il le perce, il le tient sous ses ongles vainqueurs. Par 100 coups redoublés, il venge ses douleurs. Le monstre, en expirant, se débat, se replie. Il exhale en poison les restes de sa vie. Et l'aigle, tout sanglant, fier et victorieux, le rejette en fureur et plane au haut des cieux. Pour peu qu'on ait la moindre étincelle de goût, on apercevra dans la faiblesse de cette copie la force du pinceau de l'original. Pourquoi donc Cicéron passe-t-il pour un mauvais poète? Parce qu'il a plu à Juvénal de le dire, parce qu'on lui a imputé un vers ridicule. O fortunatam natam me consule Romam. C'est un vers si mauvais que le traducteur qui a voulu en exprimer les défauts en français n'a pu même y réussir. Ô Rome fortunée, sous mon consulat né. Ne rend pas beaucoup près le ridicule du vers latin. Je demande s'il est possible que l'auteur du beau morceau de poésie que je viens de citer ait fait un vers si impertinent. Il y a des sottises qu'un homme de génie et de sens ne peut jamais dire. Je m'imagine que le préjugé, et qui n'accorde presque jamais deux genres à un seul homme, fit croire Cicéron incapable de la poésie quand il y eut renoncé. Quelque mauvais plaisant, quelque ennemi de la gloire de ce grand homme, imagina ce vers ridicule et l'attribua à l'orateur, au philosophe, au père de Rome. Et Juvénal, dans le siècle suivant, adopta ce bruit populaire et le fit passer à la postérité dans ses déclamations satiriques. Et j'ose croire que beaucoup de réputations, bonnes ou mauvaises, se sont ainsi établies. On impute par exemple au père Malebranche ces deux vers. Il fait en ce beau jour le plus beau temps du monde, pour aller à cheval sur la terre et sur l'onde. On prétend qu'il les fit pour montrer qu'un philosophe peut, quand il veut, être poète. Mais quel homme de bon sens croira que le père Malebranche ait fait quelque chose de si absurde? Cependant, aucun écrivain d'anecdotes, un compilateur littéraire, transmet à la postérité cette sottise. Elle s'accréditera avec le temps. Et si le père Malebranche était un grand homme, on dirait un jour, ce grand homme devenait un sot quand il était hors de sa sphère. On a reproché à Cicéron trop de sensibilité, trop d'affliction dans ses malheurs. Il confie ses justes plaintes à sa femme et à son ami. Et on impute à lâcheté sa franchise. Le blâme qui voudra l'avoir répandu dans le sein de l'amitié et les douleurs qu'il cachait à ses persécuteurs. Mais je l'en aime davantage. Il n'y a guère que les âmes vertueuses de sensibles. Cicéron, qui aimait tant la gloire, n'a point ambitionné celle de vouloir paraître ce qu'il n'était pas. Nous avons vu des hommes mourir de douleur pour avoir perdu de très petites places. après avoir affecté de dire qu'il ne le regrettait pas. Quel mal y a-t-il donc à avouer à sa femme et à son ami qu'on est fâché d'être loin de Rome, qu'on a servi, et d'être persécuté par des ingrats et par des perfides? Il faut fermer son cœur à ses tyrans et l'ouvrir à ceux qu'on aime. Cicéron était vrai dans toutes ses démarches. Il parlait de son affliction sans honte et de son goût pour la vraie gloire sans détour. Ce caractère est à la fois naturel, haut et humain. Préférerait-on la politique de César, qui dans ses commentaires dit qu'il a offert la paix à Pompée et qui, dans ses lettres, avoue qu'il ne veut pas la lui donner? César était un grand homme, mais Cicéron était un homme vertueux. Que ce consul ait été un bon poète, un philosophe qui savait douter, un gouverneur de province parfait, un général habile. Que son âme ait été sensible et vraie, ce n'est pas là le mérite dont il s'agit ici. Il sauva Rome malgré le Sénat, dont la moitié était animée contre lui par l'envie la plus violente. Il se fit des ennemis de ceux-mêmes dont il fut l'oracle, le libérateur et le vengeur. Il prépara sa ruine par le service le plus signalé que jamais homme ait rendu à sa patrie. Il vit cette ruine et il n'en fut point effrayé. C'est ce qu'on a voulu représenter dans cette tragédie. C'est moins encore l'âme farouche de Catilina que l'âme généreuse et noble de Cicéron qu'on a voulu peindre. Nous avons toujours cru, et on s'était confirmé plus que jamais, dans l'idée que Cicéron est un des caractères qu'il ne faut jamais mettre sur le théâtre. Les Anglais, qui hasardent tout, sans même savoir qu'ils hasardent, ont fait une tragédie de la conspiration de Catilina. Ben Jonson n'a pas manqué dans cette tragédie historique de traduire 7 ou 8 pages des Catilinaires, et même il les a traduites en prose, ne croyant pas que l'on pût faire parler Cicéron en vers. La prose du consul et les vers des autres personnages font à la vérité un contraste digne de la barbarie du siècle de Ben Jonson. Mais pour traiter un sujet si sévère, dénué de ces passions qui ont tant d'empire sur le cœur, il faut avouer qu'il fallait avoir affaire à un peuple sérieux et instruit, digne en quelque sorte qu'on mit sous ses yeux l'ancienne Rome. Je conviens que ce sujet n'est guère théâtral pour nous, qui, ayant beaucoup plus de goût, de décence, connaissant du théâtre que les Anglais, n'avons généralement pas des mœurs si fortes. On ne voit avec plaisir au théâtre que le combat de passion qu'on éprouve soi-même. Ceux qui sont remplis de l'étude de Cicéron et de la République romaine ne sont pas ceux qui fréquentent les spectacles. Ils n'imitent pas Cicéron qui y était assidu. Il est étrange qu'ils prétendent être plus graves que lui. Ils sont seulement moins sensibles aux beaux-arts, ou retenus par un préjugé ridicule. Quelques progrès que ces arts aient faits en France, les hommes choisis qui les ont cultivés ont point encore communiqué le vrai goût à toute la nation. C'est que nous sommes nés moins heureusement que les Grecs et les Romains. On va au spectacle plus par oisiveté que par un véritable amour de la littérature. Cette tragédie paraît plutôt faite pour être lue par les amateurs de l'Antiquité que pour être vue par le parterre. Elle y fut, à la vérité, applaudie et beaucoup plus que Zaïre. Mais elle n'est pas d'un genre à se soutenir comme Zaïre sur le théâtre. Elle est beaucoup plus fortement écrite, et une seule scène entre César et Catilina était plus difficile à faire que la plupart des pièces où l'amour domine. Mais le cœur amène à ces pièces, et l'admiration pour les anciens romains s'épuise bientôt. Personne ne conspire aujourd'hui, et tout le monde aime. D'ailleurs, les représentations de Catilina exigent un trop grand nombre d'acteurs, un trop grand appareil. Les savants ne trouvent pas ici une histoire fidèle de la conjuration de Catilina. Ils sont assez persuadés qu'une tragédie n'en est pas une histoire. Mais ils y verront une peinture vraie des mœurs de ce temps-là. Tout ce que Cicéron, Catilina, Caton, César ont fait dans cette pièce n'est pas vrai. Mais leur génie, leur caractère y sont peints fidèlement. Si on n'a pas pu y développer l'éloquence de Cicéron, on a du moins étalé toute sa vertu et tout le courage qu'il fit paraître dans le péril. On a montré dans Catilina ces contrastes de férocité et de séduction qui formaient son caractère. On a fait voir César naissant, factieux et magnanime. César fait pour être à la fois la gloire et le fléau de Rome. On n'a pas fait paraître les députés des Allobroges, qui n'étaient point des ambassadeurs de nos Gaules, mais des agents d'une petite province d'Italie soumise aux Romains, qui ne firent que le personnage de délateurs, et qui par là sont indignes de figurer sur la scène avec Cicéron, César et Caton. Si cet ouvrage paraît au moins passablement écrit, et s'il fait connaître un peu l'ancienne Rome, c'est tout ce qu'on a prétendu et tout le prix qu'on attend.